Ils viennent de très loin, ils viennent d'avant, ils viennent d'un pays paysan, où il fallait apprendre à se baisser, pour fendre la terre ou pour ramasser le sel que la mer a jeté. Regard très long et photo passé, sans peine, sans joie ni regret, le complet du mariage et les robes blanches ne sortent plus guère que pour les dimanches, avec un air de s'excuser. Un jour ou bien un autre, quand la vie m'aura pris toutes mes certitudes, j'irai les écouter, j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens.
Bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs, dans l'émission À l'ombre de la patience des anciens. Une émission présentée en direct tous les samedis à 11h avec une rediff mise pour rediffusion le vendredi à 17h. Aujourd'hui, une émission donc intitulée Deus ex machina. Qu'est-ce que c'est que ce truc en latin? Quelle est cette expression? À votre avis, la vie est une pièce de théâtre, un film de cinéma, une cour de récréation d'école ou bien une émission de radio, que sais-je encore? C'est sûr que le côté mélodramatique de la pièce de théâtre est attrayant, car il brave les siècles qui nous séparent de l'Antiquité, vieux repère quoique civilisé pour notre société. Mais à l'époque où l'anagramme, la calotte polaire égale l'acropole était là, donne toute sa perspicacité, dans un mélange de science et de poésie métaphysique, il nous faudrait un Deus ex machina pour nous sortir de là. Qui serait le metteur en scène de la pièce? Ou le besoin de reconnaissance de certains potentats serait plus enclin à augmenter leur désir de pouvoir plutôt qu'à servir leurs ouailles. Nous sommes à la merci d'une bande de chenapans qui, d'un côté comme de l'autre, sont pris dans l'engrenage de l'inflation de leur ego qui pourrait nous entraîner prématurément vers une fin de non-recevoir. Heureusement, fin de non-recevoir à l'humanité, bien sûr. Heureusement, on conserve donc l'espoir que la vie soit une tragédie, dans le sens antique du terme. Tout est permis afin de passer ce cap de mal-espérance qui attire tout le monde vers la souffrance. Pour certains, de plus en plus nombreuses, la vie serait plutôt un jeu. Preuve ou conséquence que certains chenapans, en mal de reconnaissance intense et même à Valence, confondraient jeu et jeu. Gageons que dans peu de temps, le maître du jeu descendra de sa machine pour un Deus ex machina salvateur qui remettra les pendules à l'heure.
Words fail me, and my vision's unclear. Blind to the truth, like hands reaching out in the darkness. I can't stop the world from turning around, or the pull of the moon on the
believer along for the ride. I believe we're along for the ride. Through the gift of surrender,
Machina, traduction d'une expression grecque, préalable, apo, mécanes, théos. Cette locution désigne dans le vocabulaire théâtral le procédé faisant entrer en scène, en le descendant des cintres, un dieu. En grec ancien, mécané désigne le mécanisme qui sert à faire entrer une divinité en scène. Le terme est issu des pratiques de la tragédie grecque où une machine est utilisée pour déplacer sur la scène les acteurs qui jouent les dieux. La machine peut être une grue mécanée pour descendre les acteurs sur la scène ou elle peut être une trappe par laquelle les acteurs montent sur scène. Les préparations de déplacement ont lieu derrière la scène. L'idée a été introduite par Eschyle et elle a été souvent utilisée pour résoudre les conflits et conclure le drame. Cette technique est aussi utilisée dans les comédies.
Est-ce que vous connaissez le concept de plot armor? Et est-ce que vous avez une petite idée du mal que cette maladresse peut avoir sur votre histoire et votre roman ? En anglais, on l'appelle également « character shield » ou « plot shield » et on peut la traduire en français par « armure en intrigue »,« invulnérabilité scénaristique » ou « bouclier du protagoniste ». En fait, il n'y a pas vraiment de traduction en français pour « plot armor » et je pense que le plus proche que nous ayons, c'est ce que nos amis de l'Antiquité appelaient le « deus ex machina ». Explication, exemple et méthode pour l'éviter, je vous dis tout après le générique. À l'époque de l'Antiquité, le Deus ex machina servait au dramaturge dont le héros se retrouvait coincé dans une situation complètement inextricable. Jason, perdu dans les enfers, tous ses compagnons sont morts, il a perdu sa toison d'or et son épée magique, il est encerclé par les démons et un chien géant à trois têtes va le dévorer en deux coups de mâchoire. Aucun espoir, aucun moyen de s'en sortir. Mais si le héros meurt, c'est la fin de l'histoire et les méchants ont gagné. Et ça, à l'époque, c'était juste pas possible. Alors, le dramaturge faisait intervenir un dieu, Zeus, Apollon ou un autre, qui intervenait à la dernière minute pour sauver le héros grâce à ses pouvoirs divins. Le dieu en question était joué par un acteur qui était suspendu au plafond de la scène par des cordes et une machine à levier. C'est de là que vient son nom Deus ex machina, qui, en latin, signifie littéralement le dieu qui sort de la machine. Aujourd'hui, on utilise plus le terme de plot armor. Mais plot armor ou Deus ex machina, ça se ressemble beaucoup. Il s'agit de la capacité inhabituelle ou inattendue d'un personnage à survivre à de graves blessures ou à une situation potentiellement mortelle, simplement parce que ce personnage, il est important pour la suite de l'intrigue. Un exemple pour bien comprendre ce qu'est le plot armor. La série Game of Thrones. La série de la chaîne HBO a repris les livres de George R. Martin et puis, comme le studio produisait les saisons de la série beaucoup plus vite que Martin n'écrit ses livres, eh bien elle a fini par rattraper les livres puis par les dépasser. Et ça s'est senti. Ça s'est senti sur plein d'aspects et en particulier sur l'utilisation du plot armor ou Deus ex machina. Souvenez-vous de tous ces beaux mâles virils et nobles qui portaient les espoirs du spectateur et qui inspiraient les apprentis chevaliers. Eddard Stark, paf! Robb Stark, paf! Renly Baratheon, paf! Oberyn Martell, paf! Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que George R. Martin n'utilise pas du tout le plot armor. Important pour l'intrigue ou pas, si son coup se trouve sur le passage d'une hache, la tête saute. Et puis, après la saison 5, ce sont les scénaristes de HBO qui ont repris les rênes, et ça a bien changé. Les héros n'ont pas simplement arrêté de mourir, ils en ont carrément ressuscité certains. Et une poignée d'entre eux a réussi à repousser l'attaque de milliers de zombies immortels au prix de quelques morts de personnages secondaires. Alors, certains pourront argumenter qu'il s'agit d'un récit de fantasy avec des dragons, de la magie, un univers fictif. Certes, mais cela n'accorde pas, selon moi, de dérogation à suivre certains principes de survie et de limites à fixer pour un personnage. Game of Thrones a connu la popularité justement pour sa capacité à zigouiller sans vergogne ses personnages principaux. Malheureusement, à mesure que l'histoire avançait, eh bien, les personnages gagnaient en importance et il devenait de plus en plus difficile de les faire disparaître. Le souci, c'est que la série a perdu ce qui avait fait le succès des livres, entre autres choses évidemment. Le problème avec le plot armor, c'est que cela tue votre intrigue. Le lecteur veut avant tout être surpris par un retournement inattendu, et d'ailleurs c'est ce qui se passe avec la mort d'Eddard Stark, mais la dernière chose qu'il veut, c'est être pris pour une buse, en voyant débarquer Zeus, Superman ou une épée magique, qui descend du ciel pour sauver la situation et faire triompher la justice et la vérité. En faisant cela, non seulement votre histoire n'est plus plausible, mais vous perdez toute crédibilité en termes d'auteur. Même si votre roman était excellent jusque-là, un Deus ex machina le fera passer dans la catégorie des livres mal écrits et mal préparés. Heureusement, les lecteurs ont un certain seuil de tolérance par rapport au plot armor. Ils savent qu'ils lisent de la fiction, mais ils ne veulent pas voir leur personnage préféré mourir. Il y a donc parfois une frontière qui est très fine entre donner aux lecteurs ce qu'ils veulent et rester plausible et honnête dans les rebondissements de son récit. Pour y arriver, voici trois règles que je vous invite à suivre. Règle numéro 1, N'ayez pas peur de blesser votre personnage. Vous n'avez pas nécessairement besoin de le tuer, votre personnage, quand il est face à un danger. Mais une blessure grave, une cicatrice ou un traumatisme physique ou mental vont rendre sa survie beaucoup plus crédible. Il est également important de ne pas sous-estimer l'épreuve émotionnelle par laquelle votre personnage va devoir passer pour surmonter cette blessure. Personne ne perd un œil ou une main sans en ressortir irrémédiablement changé. Demandez à Jamie et à Tyrion Lannister ce qu'ils en pensent. Règle numéro 2, les solutions doivent être plausibles. Le plus important, ce qui concerne la façon dont votre personnage se sort d'une situation dangereuse, c'est que le lecteur ne doit pas avoir l'impression qu'elle sort du chapeau. Si Zeus se pointe pour sauver Jason alors qu'on lui a rien demandé, le lecteur a le sentiment d'être pris pour une poire. Mais si, avant la bataille, Jason prie dans le temple de Zeus pour une aide divine, alors on peut plus facilement gober la pastille. Le truc consiste à donner les clés de la solution au lecteur tout au long du récit, lui faire comprendre qu'il avait la solution sous le nez depuis le début, et que malgré cela, il n'a rien vu venir. La solution, tout comme le problème, doit être amenée par l'intrigue. Plantez les graines de la solution en amont et récoltez-la quand votre personnage en aura besoin. Règle numéro 3, s'il doit mourir, qui meurt ? Parfois, la mort d'un personnage est le choix le plus logique à un moment donné de l'histoire. Si c'est le cas, alors il est de votre responsabilité de l'assumer et de faire le grand saut. Assurez-vous simplement que sa mort soit aboutie, c'est-à-dire qu'elle va marquer la fin de l'arc de ce personnage et que votre intrigue ait la possibilité de rebondir à ce retournement. S'il s'agissait de votre personnage principal, pas de bol. Ou alors, un autre personnage va devoir le remplacer. Ciao!
Alors, je voulais vous mettre la nouveauté de Marc Knopfler, mais il paraît qu'il n'est pas en forme, Marc. Bah ouais. Hein. Mais finalement, avec la portée de l'émission Deus Ex Machina, j'ai préféré vous mettre Dream Theater. Être ou paraître là est la question, bien que tout le monde sache, au fond de lui, au fond, très fond de lui, que le plus important est d'être, la majorité se contentera de paraître, ce qui fait le bonheur de certains. Car on ne peut pas en vouloir à certains de tirer profit de cette manne qui va en grandissant, grandissant sans arrêt. Mais au fait, qui est certain ?
Riche, pourquoi tu portes pas des marques de luxe ?
Parce que les marques de luxe te piègent. Tu as l'impression que les marques de luxe vendent aux riches, mais en vérité, ils vendent ça aux gens qui veulent paraître riches. N'achète pas des choses que tu ne veux pas, avec l'argent que tu n'as pas, pour impressionner des personnes que tu n'aimes pas.
Bien, c'était Enigma Machine. Effectivement, ça colle bien avec l'émission, mieux que Mark Knopfler, à qui on souhaite évidemment d'aller bien. Son album me paraît assez sympathique, mais au vu de certaines prises de vue, lui me paraît pas très très en forme, Marc. Oui, la semaine dernière, je vous ai passé une interview donc réalisée par le CCDH de Florence Ellie. Une interview assez longue. Cette fois, comme elle est mal passée, je vais vous proposer l'essentiel, la quintessence de son message à nouveau, mais cette fois-ci d'une manière courte.
Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Florence Ellie, fondatrice et présidente de l'association Hélène Rebirth. Cette association a été créée en 2019 pour alerter, prévenir, sensibiliser et intervenir contre toutes les formes de violences familiales, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles. Depuis sa création, l'association a aidé des centaines de personnes en proposant une écoute, du soutien psychologique ou financier, un accompagnement administratif et juridique. L'association travaille en collaboration avec des professionnels variés, des thérapeutes, avocats et autres associations, pour proposer un accompagnement complet aux victimes. Florence, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes à l'origine de cette association, Hélène Rebirth. Mmh. Vous avez vous-même été victime de violences dans votre enfance. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, j'ai subi l'inceste dans mon enfance par mon père avec le consentement de ma mère. Et la soumission chimique est un sujet qui me parle bien puisque moi-même, ça a été le cas. Ma mère, pour m'empêcher de parler, dès l'âge de 3 ans, me mettait sous soumission chimique. Donc, je prenais des traitements, un traitement de cheval pour ne pas dire... Gardénal et puis d'autres traitements pour éviter de révéler ce qui se passait à la maison et de même qu'elle a consenti tous les actes de mon père. Donc constamment, dès que quelqu'un m'approchait, « Oh, mon enfant, il est atteint de psychiatrie », on fait toujours passer la personne pour défaillante. Comme ça, ça arrange bien l'agresseur et ça le maintient bien sous l'emprise.
Est-ce que c'est une situation que vous voyez, vous, aujourd'hui, dans le cadre de votre association, des victimes qui sont mises sous médicaments psychiatriques pour camoufler le problème ?
Alors j'en vois malheureusement quotidiennement auprès de chaque personne qui nous sollicite. Dans le cas des violences conjugales, c'est un vrai fléau. C'est 9 femmes sur 10 qui sont touchées par ça. Sur la thématique de l'inceste et les violences sexuelles, on le retrouve relativement souvent. Parce que pour l'agresseur, le fait de mettre quelqu'un sous soumission chimique, c'est l'impunité totale pour lui. Il peut abuser de la personne. Elle ne va pas s'en rappeler, la personne ne va pas se rappeler avoir eu des rapports sexuels, elle va avoir des trous de mémoire. Donc pour lui, il peut agir tranquillement, faire ce qu'il a à faire sur la victime et elle ne s'en rappellera pas. Et en même temps, il peut la maintenir très longtemps comme ça. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un vrai fléau. C'est-à-dire que les personnes, quand elles révèlent que ce soit des violences sexuelles, des viols ou de l'inceste, la première chose qu'elles font, quand elles vont porter plainte bien sûr, mais quand elles en parlent, c'est que elles ont un suivi psychologique parce qu'il le faut, mais tout de suite, on les met sous antidépresseurs, ce qui fait qu'on finit d'enterrer le problème au lieu de régler le traumatisme, ce qui est vraiment dramatique, puisque la dalle de béton du traumatisme, on continue de la couler, et en les mettant sous antidépresseurs ou sous des molécules psychiatriques, on endort le problème, mais on ne le règle pas. Le problème, c'est que les personnes derrière, on retrouve des troubles alimentaires, on va retrouver de la somnolence... Ils ne vont pas se rappeler de ce qu'ils portaient la veille. Il y a des idées suicidaires. En fait, on tourne en rond. On ne sort pas la personne du traumatisme, alors que le but, c'est quand même de la sortir. Elle a vécu des choses traumatiques. Le but, c'est quand même de la sortir de ça.
Donc, on ne révèle pas le traumatisme et on camoufle ça par d'autres effets secondaires de médicaments qui permettent aussi de continuer les agressions.
Oui, qui continuent, oui.
Florence, merci beaucoup pour votre témoignage. Vous militez tous les jours pour respecter la dignité des droits humains dans le cercle familial et dans notre société. Si vous avez été victime de violences, contactez l'association Hélène Rebirth. Vous pouvez visiter son site internet www.hélène-rebirth.com. Et enfin, pour tout sujet sur les abus psychiatriques, vous pouvez contacter la Commission des citoyens pour les droits de l'homme sur son site www.ccdh.fr. We'll be right back.
Oui, il fallait laisser l'effet résonance, là. Quand le vampirisme, légende des Carpates, devient une réalité, adoubé par le petit maître Harry Potter et sa baguette magique, nous révèle que où les vampires, oui, ça existe, mais ils sont le plus souvent psychiques. Et les buveurs de sang ne sont que de pâles reflets de la réalité qui forge nos histoires depuis la nuit des temps. Vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre.
L'énergie, elle part dans le corps de l'autre. Alors vous allez me dire, oui, bah ça y est, on est chez Harry Potter. Pas du tout. En fait, même les psychiatres en parlent. Ils évoquent une vampirisation inconsciente. C'est-à-dire que, en déstabilisant l'autre à répétition, eh bien, je vais lui prendre de l'énergie. Pourquoi je n'arrive pas à quitter l'autre, finalement, c'est que si, à force d'être déstabilisé, mon énergie part dans le corps de l'autre, eh bien, je ne peux pas partir parce que je ne peux pas m'abandonner moi-même. Pourquoi vous partez et vous vous surprenez à revenir? Tout simplement parce que vous êtes toujours en lien avec votre propre énergie qui est dans le corps de l'autre.
We'll be right back.
Excusez-moi pour la mauvaise qualité durant cette émission du son, par moment, hein, simplement, je viens de le constater, un petit parasite sur le cordon qui relie un cordon essentiel, quoi. Mais bon, à mon avis, ça devrait être résolu d'ici peu. Ça a commencé à aller beaucoup mieux. Un petit peu d'humour, on va parler un petit peu du sport. Le sport, il est vrai, un petit peu contaminé par l'inflation aussi également. C'est très difficile cette histoire-là parce que évidemment on aime voir du beau jeu, il y a les stars, il y a l'inflation aussi des salaires. Bien, moi finalement, j'aime bien le foot, hein, bien que je préfère le rugby, mais le rugby il prend un peu le chemin du foot. Hein. Faut bien le dire. En 2024, là, c'est-à-dire cette année en été, il va y avoir les Jeux à Paris. Bon. Tout ça, c'est évidemment, ça va être hyper médiatisé. C'est source de beaucoup de circulation de monnaie et d'argent, quoi. Alors, on se demande si ça vaut bien le coup pour arriver à sauter un centimètre plus loin que les autres ou plus haut aussi. Ça commence à être un petit peu ridicule pour les jeux comme le foot, par exemple. On peut très bien avoir du très très bon jeu sans pour autant qu'il y ait tant d'argent mis en jeu. Et c'est ce que semblent vouloir dire ces humoristes que j'aime bien et qui n'ont pas peur, évidemment, de dire les choses. Voilà, donc un petit peu d'humour, ça fait pas de mal. Ça fera pas de mal au foot non plus.
Hein. Qu'est-ce qu'il fout l'autre là-bas? Qu'est-ce qu'il fout là? Hé, hey, Toshiba là-bas, oh!
15h30, stade de Beauvallon-sur-Oise, à l'heure de l'entraînement.
Tu veux que je t'apprenne à tirer dans un ballon, connard? Putain, mais qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Tu sais combien je te paye là pour jouer avec tes pieds, connard? Toshiba là. Bon, il est où là? Tiens, Toshiba là, viens ici, toi. Viens là. Viens là, tu vas me remplacer ce con là aussi, je vais lui exploser la gueule.
Ah non, moi c'est pas Toshiba, c'est Federico da Silva.
Ouais, c'est bon. Allez, va remplacer ce con là, putain. Non, vous savez, le sport pour moi c'est une passion. C'est vraiment une passion. Moi quand je vois un stade entier qui se lève et qui crie, enfin, je sais pas si vous imaginez, 25 000 personnes à 250 francs la place qui se dressent de joie, enfin. Moi, ça me bouleverse, enfin, franchement. Ça...
Depuis que M. Filuccelli a pris en main l'équipe de Beauvallon-sur-Oise, le moral dans les cafés de la ville est bien remonté. Enfin, nous avons trouvé celui qui sera capable de redonner à la localité ses lettres de noblesse footballistique.
Allez, c'est bon. On va voir ce que les petits vont faire ce soir. J'espère qu'ils vont avoir le... Bonjour, monsieur l'arbitre. Tiens, salut Toshiba, ça va?
Bonjour.
Ça va mieux, là, ton rotule, là, ça va mieux?
Bon, c'est...
Bonjour. Salut. Hein?
Ça va mal.
Oui, ça y est. Bonjour. Courage. Comment ça va mieux ou pas alors?
Bah, pas terrible. Hein,
comment ça va terrible? Bah, tu m'avais dit qu'au bout de deux semaines, ça irait mieux, non?
Oui, bon.
Eh, je te paye pas 30 bâtons par mois pour te donner des couilles de gonzesse, non?
Ah, on avait dit 50.
Attends.
Hein?
Non, mais c'est 30.
Non, c'est
30. Non, tu auras tes 50, ouais. Mais c'est 30.
Ok, d'accord.
30 et tu auras tes 50.
Ok.
Ok, allez, c'est bon, allez, va.
Ok, on va
jouer bien.
Du beau football.
Hein. T'as que du bon football, va. T'as jeu marqué, c'est tout ce qu'on demande, va. Ça va y aller.
Ce jour-là, c'est la déception dans le camp de Filuccelli. L'équipe de Beauvallon est menée 2-0 à la mi-temps.
On a eu des petits problèmes en première mi-temps. J'espère que les petits vont se ressaisir en deuxième mi-temps. On a tout espoir. À tout à l'heure, messieurs.
À tout à l'heure.
En deuxième mi-temps, surprenant retournement, 6-2, dont 4 pénaltys.
Vous-même, vous avez été footballeur?
J'étais à l'honneur. Et croyez-moi qu'à l'époque, j'hésitais pas à monter au filet. Enfin, maintenant, je n'ai plus l'âge.
Le football vous dit merci, monsieur Filuccelli.
Tu vas me devenir un grand footballeur, hein? Ok? C'est bon. Allez.
Avant de se quitter, là, qu'est-ce que vous avez encore à dire d'important?
C'est un chat, comment dire, qui est très particulier, il a son caractère et on ne peut pas l'obliger à manger quelque chose. Quand il ne veut pas, il ne veut pas. Il est très joueur, il aime beaucoup jouer, il m'a déjà griffé là, là, partout, il est très cocasse. Parfois, on n'est pas du tout d'accord, pas du tout. Alors, je me fâche, je l'ai privé de télévision deux fois déjà.
Frappe, frappe, petite main.
C'est quelqu'un qui a des insomnies quand même, alors il faut s'occuper de lui, il faut lui raconter des histoires avant qu'il s'endorme.
Lenteur des collines et force du vent, chaude braise au fond du sabot, sagesse des histoires qu'ils ont racontées, pour se souvenir, se réchauffer, et ne plus jamais oublier, un jour ou bien un autre. Quand la vie m'aura pris toutes mes certitudes, j'irai les écouter, j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens. Ils viennent de très loin, ils viennent d'avant, ils viennent d'un pays paysan.